Ouais, salut. Va te prendre un trio économique, s'il te plaît.
Hey, bienvenue dans le trio économique. Il faut commencer vite. Vincent est occupé. C'est sa job, c'est de lire des livres, mais évidemment, il est dans une position qui nous met de la pression parce qu'apparemment, c'est le seul de la gang qui a une vraie job. Probablement le seul qui est payé à rien faire ici, mais bon, en tout cas, peu importe. Fait que, on va se dépêcher, on va commencer fort. Vincent m'a envoyé...
J'aime les soupirs avant ça.
Vincent m'a envoyé hier le résumé du budget du Québec. Ça se résumait à, grosso modo, crise de budget de marde.
Pas mal.
Fait que il voulait en parler aujourd'hui. Fait qu'on va en parler. Je risque d'être plus généreux que lui aujourd'hui, quand même. C'est assez impressionnant. Ça va être moi le généreux, puis Vincent le pas généreux dans l'histoire.
Ouais. Ben, ça, commence c'est donc, toi. Pourquoi tu l'aimes, le budget?
Ben, non, je ne dirais pas que je l'aime. Je dirais pas que je l'aime.
Juste avant que vous vous déliriez, là, juste vous rappeler qu'on a 4 semaines de décalage avec YouTube, fait que ça n'aura plus rapport, là, le budget rendu là. Il faudrait en parler de manière plus générale, genre ça serait quoi un budget qui a de l'allure.
Mais son autre sujet sur l'inflation m'intéresse plus que le budget de toute façon. Fait que on va passer vite sur le budget. Mais je pense que c'est nos Patreons qui, eux autres, vont l'avoir en temps réel, qui vont bénéficier vraiment plus de la discussion. Puis ils veulent vraiment profiter du fait que Vincent va pouvoir avoir son intake là-dessus. Non, moi, je dirais pas que j'aime le budget, parce que, tu sais, je suis d'accord avec toi sur ben des affaires, là. Un budget avec des baisses d'impôts doit aussi avoir des baisses de dépenses.
Là. Yep.
Chose qu'on voit pas, évidemment. Mais en même temps, je suis conscient que le gouvernement vient de s'attacher les mains. Pour le futur, il y a un certain coût politique qu'il va avoir à remonter les impôts. Fait que, tu sais, je te dis, il n'y aura pas de coupure de dépenses, mais il risque d'avoir moins d'augmentation de dépenses dans le futur. C'est plus de même que je le vois. C'est pas sexy, mais tu sais, moi, j'ai pas le goût aujourd'hui de faire la file pour crisser une baffe au gouvernement après tout le monde. Dans le sens que pour une fois qu'on a un peu de break, là, ça va pas exactement où est-ce qu'on veut que ça aille, mais au moins, la direction est correcte.
On a check le prix politique qui est... que tu as, ben pas de prix politique, il n'y a pas de prix politique, mais check le prix médiatique que tu as à payer pour des trucs finalement. Tu demandais un buffet, t'as une banane. Puis finalement, ben, Chris, tout le monde t'accuse de démolir l'État-providence, d'être le saccageur des services publics. Là, puis là, moi, ce que j'aime, c'est la puissance de 1,4 milliard. Là. Ça, là, c'est sur un an. Là. C'est que tu les écoutes parler, puis avec cet argent-là, là, on aurait pu faire des logements sociaux, réduire les temps d'attente. Là, tu es comme, hey, vous autres, là, c'est le Christ qui multiplie le vin puis le pain pour tout le monde. Hein. Avec un montant dérisoire, finalement, tu aurais tellement pu faire de trucs. Moi, je trouve ça ahurissant.
Oui, écoute, l'État est tellement bon à dépenser chaque dollar additionnel qu'il reçoit que il manquait juste le problème, c'était juste qu'il fallait qu'on se rende juste un extra quelques dollars de plus, puis là, on rentre dans la zone, le sweet spot où l'État devient incroyablement efficace à dépenser.
dans l'argumentaire aussi.
C'est juste c'est comme l'alcoolique qui dit juste le prochain verre, juste le prochain, là, juste le prochain, là, juste un autre, là, juste un autre.
Oui, c'est au casino, tu sais, je suis en train de.
Parce qu'eux, ils
aiment ça, eux, ils aiment ça, les analogies, là, l'économie casino, tout ça.
Ah, ouais.
Ben, eux, ce qu'ils font, c'est carrément ça. Là. C'est là, je vais les avoir, les trois cerises d'affilée, encore un autre coup. Sylvie, donne-moi un autre vin que je le mette dans ma chaîne.
On va réussir à le recruter, le top. Gun qui va sauver le système de santé.
Avez-vous remarqué aussi la contradiction de... Hier, j'écoutais... ben là, je prends cet exemple-là, mais ils ont tous dit à peu près la même affaire. Là. Hier, j'écoutais GND qui parlait, puis il disait... Lui, il disait, un, c'est vraiment irresponsable de financer des baisses d'impôts sur le dos des générations futures avec le fonds des générations, tout. Mais trois secondes plus tard, il dit, on aurait dû prendre cet argent-là pour envoyer des chèques aux pauvres. Là, t'es comme, ben là, si tu es responsable ou pas de jouer dedans, là? Parce que tu peux pas me dire que fallait mettre l'argent dans le fond des générations d'un côté, puis de l'autre bord, dire, ben, on aurait pu prendre cet argent-là pour faire des logements sociaux puis donner des chèques aux pauvres. Ben, ça va, là? Un peu, là. Principe de non-contradiction. Tu peux pas dire une chose et son contraire en même temps.
Ben oui, tu peux, t'es député. ben écoute, ouais, première affaire, quand Yann, il parle de... l'idée, c'est que le gouvernement s'est attaché les mains. Ça, j'y crois pas. Parce que ça repose sur une théorie qui est l'équivalent de « starve the beast ». Donc, que si tu prives le gouvernement de revenus, puis comme augmenter les impôts, c'est coûteux, bien, éventuellement, il est forcé de réduire ses dépenses. C'est quelque chose que les conservateurs aux États-Unis tripaient vraiment beaucoup pendant longtemps. Mais quand on regarde empiriquement les baisses d'impôts, lorsqu'il y a une baisse d'impôts, c'est rarement suivi de baisse de dépenses. Donc, en fait, c'est souvent monté avec des... avec de l'endettement uniquement, moins de croissance économique. Donc, le starve the beast, là, ça n'a pas vraiment d'effet. Je pense que je cherche en même temps, tu sais, qu'on parle, mais écoute, tu as des économistes de gauche, tu as des économistes libertariens comme Bill Niskanen qui dit ça ne marche pas. Fait que, si des libertariens et des économistes centre-gauche sont d'accord, c'est pas mal clair que ça marche pas cette affaire-là. C'était un pipe dream, comme on dit en anglais. Donc, j'y crois pas qu'ils se sont attachés les mains. Tout ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'on va avoir plus d'endettement. Puis le Québec, si tu ajoutes la portion de la dette qu'on a du fédéral qui est assez élevée, on est dans la zone un peu dangereuse de... parce qu'il y a un gros débat, c'est de savoir si la dette publique, quand elle passe un certain seuil du PIB, est-ce que les coûts sur l'économie augmentent? Pas juste, tu sais, que ça augmente à chaque fois que tu en as un petit peu plus, mais quand tu arrives à un certain point critique, c'est encore plus par extra unité d'endettement. Puis on est pas mal proche de cette zone-là. Bon, il y a un débat si elle existe pour vrai. Il y a
à des cause gens du qui Japon oui. qui vient un peu tout le temps fucker le chien dans cette histoire-là, là, qui a un ratio d'endettement super élevé, puis que on a de la misère à voir s'ils se sont handicapés vraiment avec ça au fil du temps. Là.
Ouais, c'est un exemple, mais il y a aussi d'autres exemples comme la France que les gens utilisent en contre-exemple. Regarde, tu vois, la France a une grosse dette, sa croissance n'est pas absolument atroce. Ça, c'était jusqu'à il y a une couple d'années. Mais au final, tu compiles tout ça, non, ça se passera pas. Tout ce qui va se passer, je pense, c'est qu'on continue d'embarquer dans des cycles de mauvaise politique publique. Ceci dit, philosophiquement, j'aime bien les baisses d'impôts, mais il faut que ça vienne avec des baisses de dépenses. Puis le gouvernement, d'ailleurs, c'est pas tant attaché les mains que ça. Ils ont décidé de pitcher de l'argent sur des trucs qui ne fonctionnent déjà pas, comme la STM. Ils décident de mettre 400 millions davantage dans les transports en commun. La STM a un déficit gigantesque, en grande partie, a de la difficulté à financer ses services. Un, parce que depuis l'arrivée du métro à Montréal, les dépenses par kilomètre parcouru, ajustées pour l'inflation, augmentent plus vite que l'achalandage et les kilomètres parcourus. Donc, leur coût explose par unité de service. Ils ne sont pas capables. Chaque année, il faut que tu augmentes un peu les subventions parce que les frais que tu charges à la population ne sont pas suffisants. Les coûts continuent d'augmenter. Puis tu compares avec des endroits où la production de transport en commun est laissée au privé, où la planification est laissée au privé. C'est pas un partage pour toute l'industrie pareil. Dans ces industries, où est-ce que c'est privé, il n'y a pas de tendance à la hausse sur les coûts par unité de service. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir une bonne gestion à la STM. Mais le gouvernement s'est dit, écoute, la tank à gaz est vide, mais il y a un gros trou dedans. Fait qu'on peut soit réparer la tank à gaz ou on peut mettre plus de gaz dedans et espérer que ça continue une couple de mille. Bien, ils ont décidé d'y aller avec la deuxième solution, qui est celle d'un imbécile attardé qui a décidé qu'il allait dépenser de l'argent sur quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ça va continuer de marcher pendant quelques minutes.
T'es absolument pas généreux.
Non, pas à matin. Ce budget-là m'a vraiment fait chier. C'est comme le pire de tous les mondes.
Attends un peu, là. C'est pas le pire budget, Vincent, là. Il y en a eu
non,
des
pour
pires,
vrai, non, 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 non,
non. Non, il y en a eu des pires, là.
À la limite, les budgets des péquistes avaient un once de cohérence quand Pauline Marois était là. Même chose.
Celui où on avait oublié un milliard.
Oui, oui, mais ils essayaient d'être cohérents. Ils disaient qu'ils allaient augmenter les impôts puis qu'ils allaient augmenter les dépenses. C'est pas un bon budget, mais au minimum, tu sais, t'es cohérent. Celui-là, il est comme, non, mais je vais comme couper les impôts, mais je vais aussi baisser les dépenses, mais je vais les augmenter aussi. C'est comme, Christ, t'es-tu... C'est le budget le plus schizophrène que j'ai jamais vu de l'histoire. du Québec. C'est comme, on va tirer dans toutes les directions. On va aussi retarder de 5 ans la date d'arrivée au ratio d'endettement, de la dette nette qu'on voulait. Mais on ne veut pas augmenter la dette tant que ça. Qu'est-ce que tu essaies de faire, là? T'es-tu... Are you fucking high?
Mais en réalité, quand on étudiait le document budgétaire hier, ce qu'on se rendait réellement compte, c'était... Puis là-dessus, je te donne raison. C'est que le budget au complet a été construit en contre-argumentation. Tu sais, on a tous aujourd'hui les articles dans le journal, là, vraiment malhonnêtes à la Michel Girard, de un Timbit par jour pour tant de revenus par année, puis l'autre, c'est un café latté par jour, puis là, les riches ont plus de retour d'impôts, puis tout ça. Là, tu te dis, tabarnache, c'est un peu débile. Mais tu voyais les pages dans le budget, c'était contre-argumentaire qui était déjà établi face à ça. Ben, là, eux autres, c'était le pourcentage de revenus considéré par la baisse d'impôts quand tu gagnes 20 000, 30 000, tout ça, il est plus élevé, ainsi de suite. Fait que... Puis tu as l'impression tout le long du document budgétaire que c'est réellement un contre-argumentaire envers les attaques qui vont se voir. Puis là-dessus, sur le manque de cohérence, j'embarque aussi parce que le scénario économique de base, tu sais, normalement, tu te dis, il y a un stress test qui va être fait au niveau des finances publiques par le ministère des Finances, ou est-ce que réellement, tu vas avoir un scénario très pessimiste, un scénario optimiste, puis un scénario de base, puis tu essaies de voir qu'est-ce que ça va faire sur les finances publiques du Québec pour les prochains 5 ans, le fameux plan 5 ans de tous les régimes socialistes. Tu arrives dans une position où est-ce que tu te dis, le scénario de base, il n'est même pas cohérent en lui-même, dans le sens que c'est vraiment assez spectaculaire ce bout-là. Puis ça me fascine parce qu'il n'y a personne qui en parle aujourd'hui dans les médias, là, mais dans le scénario de base, le Québec évite la récession, entre autres grâce à la baisse d'impôts. L'inflation se termine immédiatement dès 2023 et retourne à 2%.
Hypothèse complètement débile.
Retourne à 2% dès 2024. Baisse de taux d'intérêt en 2024. Toujours le tout sans récession. C'est assez spectaculaire. Et...
c'est juste de la farine sur mon nez. C'est juste de la farine sur mon nez.
C'est ton imitation d'André Boisclair, ça? Ça?
Non, si je faisais mon imitation d'André Boisclair, je serais en prison.
Okay. Non, il l'est plus. C'est lui.
Non, c'est vrai, il l'est plus.
Il l'est plus. Puis la dernière, ça, c'est la plus farfelue de la gang, c'est que la dernière offre patronale qui a été faite aux employés de l'État était acceptée. Alors qu'on offre... Écoute, dans les 2 dernières années, je pense que les augmentations étaient de l'ordre de 1,5% pour les employés de l'État, alors qu'il y a de l'inflation qui était beaucoup plus élevée, puis que les employés au secteur privé augmentaient vraiment, vraiment, vraiment plus vite. Et pour les 5 prochaines années, on offre 11,5% aux employés. Donc,
sur 5 ans?
Sur 5 ans.
OK. Ça, d'ailleurs, quand ils disent 11,5%, ça ne veut pas dire que les employés vont augmenter de 11,5%. Ils vont augmenter de tous plus. Parce
tous
que...
9% et 2,5% selon les secteurs. Donc, on peut penser que les infirmières, par exemple, vont avoir 6% puis que les fonctionnaires vont avoir 0 sur le 2,5%.
Oui, mais il y a un mythe que les gens de la fonction publique aiment ça pas parler aux médias. Chaque année, il y a à peu près 40% des fonctionnaires qui ont une augmentation salariale.
Les échelons.
Exactement. L'augmentation de ce qui se passe, c'est que tu t'imagines l'échelle de salaire, il augmente toute l'échelle du 11% dont on mentionne. Mais en réalité, la plupart des employés vont avoir par manière automatique, pas par compétence, parce que les échelons, si c'était déterminé par compétence, serait radical. C'est uniquement par combien de temps tu as occupé ton emploi de manière incompétente ou compétente, tu grimpes automatiquement. Donc, tu vas avoir des gens qui vont avoir en moyenne bien plus que
11%.
Les dépenses de l'État vont augmenter juste s'ils gardent la même masse salariale.
Oui, exactement. Non, mais à base, c'est selon les paramètres actuels. Mais tu prends quelqu'un qui a 17-18 ans d'expérience, je pense que c'est à ce moment-là que tu as fini de grimper tes échelons, là, ce qui est complètement ridicule d'un certain sens. Mais quand tu es à l'échelon maximum, ben là, les seules augmentations que tu vas avoir, c'est ce qui est négocié avec le gouvernement quand même, qui est là à l'inflation. T'es vraiment dans une position où tu te dis, vous pensez vraiment que dans un contexte inflationniste comme qu'on vit actuellement, les employés de l'État vont accepter cette offre-là? C'est impossible. C'est juste impossible. En fait, ce qu'on commence même à observer, j'ai des clients dans ma clientèle qui commencent à songer à quitter le secteur public présentement. Tu sais, on sait dans la période pandémique, le privé s'est fait voler toutes sortes d'employés par l'État, de par le niveau de sécurité qui était offert, de par la... Les employés publics n'ont pas manqué une semaine de salaire, là, ce qui n'est pas arrivé au niveau privé.
Sauf que... On avait des gens, là, concrètement, qui partaient de leur job dans des restaurants, puis ils allaient être bénévoles dans les centres de vaccination et autres. Ben, pas bénévoles, mais salariés, essuyer des comptoirs, puis mettre du Purel.
Puis là, le chemin inverse est en train de se prendre, parce qu'avec les augmentations de salaire qu'on voit dans le privé, qui sont quand même assez vite, surtout au Québec, présentement, ben, tu es vraiment dans une position où est-ce que les gens de la fonction publique sont en train de prendre le chemin inverse. Il y en a qui commencent à remettre en question leur emploi au secteur public. Fait que, tu sais, même d'un niveau... Puis ça, c'est pas de la façon qu'on veut avoir de l'attrition, hein, avec les employés. Moi, c'est un peu ce que je disais ce matin. Si tu veux faire un ménage puis te débarrasser d'employés incompétents, bien, éventuellement, la fonction publique devrait s'en tirer mieux l'année prochaine que cette année si tu réussis à le faire. Par contre, si tu laisses le secteur privé recruter tes meilleurs éléments avec des meilleurs salaires, je veux dire, la productivité de la fonction publique va diminuer à vitesse grand V. Là. C'est les plus vaillants de la gang s'en vont pour avoir un meilleur salaire au privé. On va être dans la marde bien vite au public.
Ouais, faut aussi souligner un truc. Quand on regarde les études économétriques sur est-ce que les travailleurs du secteur public obtiennent une prime salariale relativement à leur comparable dans le secteur privé, puis la réponse est oui. Tu tiens compte de l'expérience du secteur
d'activité. Surtout municipal, je pense. Hein?
Oui, municipal, c'est encore pire, mais moi, je regarde juste les provinciaux. Là. Ouais. Provinciaux, je pense, la prime salariale que tu estimes de manière économétrique, c'est quand je pense 7%. Puis c'est particulièrement plus élevé pour les moins hauts salaires. Donc, quand tu casses par groupe, c'est vraiment les... Bon, techniquement, ça veut dire que c'est les hauts salariés qui ont presque pas de prime salariale, puis c'est les plus bas salariés qui ont les grosses primes salariales. Mais au final, ce que ça veut dire, c'est que tu as un État qui est plus gros que nécessaire, puis il prive le secteur privé de... Parce qu'il y a un effet weird. Quand on estime le 7%, c'est probablement sous-estimé, parce que l'effet qu'il y a, c'est que le privé est obligé d'augmenter des salaires pour attirer des gens, mais il n'est pas capable... Oui, parce
que s'il avait accès à ces travailleurs-là, et peut-être qu'il paierait un petit peu moins encore, le secteur
privé. Bien, c'est parce que tu as rarifié l'offre de travail dans le privé, fait que tu as augmenté les salaires. Tu pourrais penser que c'est bon, mais ça veut juste dire qu'il y a moins d'emplois, fait que tu as beaucoup plus de gens qui ont... Tu as des gens, oui, qui ont des salaires un petit peu plus élevés, mais tu as beaucoup de gens qui ont un salaire de zéro. fait que, tu sais, en moyenne, c'est pas le fun. Mais tu mets ça ensemble, là, il n'y a pas vraiment de justification pour... C'est de loin le pire budget. Les hypothèses sont débiles. Celle sur la croissance est particulièrement ridicule. Comme disait Paul Martin, la règle d'un bon budget, c'est high tide or low tide will balance the budget. C'est-à-dire qu'il prenait tout le temps les estimés les plus conservateurs. Puis si ça marche bien, super! Si ça marche mal, anyways, on avait prévu.
Et c'est pas ça qui a fait ça.
Ouais, là, c'est jovialiste.
Mais non. Et pour hier, un ancien banquier, là, je m'excuse, mais ça te montre à quel point aucun banquier ferait quelque chose comme ça. Aucun banquier prendrait ça au sérieux. Mais maintenant qu'on est en politique, on a le droit de dire des conneries puis de prétendre qu'on est brillant.
Ouais.
Je m'excuse, mais les prévisions du ministère des Finances, ils sont pas si bonnes que ça. Quand tu regardes, en moyenne, 50% du temps, ils se font planter par le marché. Puis 50% du temps, ils plantent le marché. Fait qu'en moyenne, ils ne sont pas différents. Il n'y a aucune raison de croire que le ministère des Finances a une prévision supérieure de manière systématique au secteur privé. Fait que c'est d'une hypothèse, d'une débilité. Sérieusement, là...
Moi, j'aurais aimé ça y poser une question. Hier, moi, si j'avais été là, c'est qu'il nous a encore dit dans son allocution que l'inflation était liée à la guerre en Ukraine.
Ah, il n'a pas fait ça pour vrai.
Ben oui.
Petite pente de jambon.
Et il a aussi dit qu'elle allait. Et il a aussi dit que ça serait bientôt terminé, l'inflation. Donc, est-ce à dire qu'il y a des informations privilégiées, lui, sur la fin de la guerre? Parce que si oui, j'aimerais ça le savoir, on pourrait faire un podcast
avec. Je comprends pourquoi il dit que l'inflation, c'est fini. C'est qu'à un moment donné, si les syndicats croient que l'inflation continue, je veux dire, le 11,5 sur 5 ans, ça marche pas.
Ouais, moi, c'est ce que je te disais un matin. Je suis sûr que ce truc-là, c'est une affaire de wishful thinking pour shaper un narratif. Mais moi, quand j'ai écouté son truc hier, c'était vraiment... Pour reprendre l'expression consacrée, c'était le beurre, l'argent du beurre, la meule de fromage, puis le cul du fermier. Parce que je dis fermier vu qu'on est inclusif.
Fermier.
Fermier.e.es.wt barbecue. Fait que. Fait que. Vas-y, Vincent.
T'es pas correct. Hey, aujourd'hui, on est, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans l'eau.
C'est comme si on a commencé par le Patreon, je ne suis pas trop là.
Ouais. Écoute, juste pour le sake of it, je regarde les taux d'inflation dans les années 80, puis je regarde le temps que ça a pris pour revenir à 2% year to date.
C'est long.
Ça a été, écoute, le pic est à peu près en 81. Non, excuse-moi, en 80, c'est le pic. Pour arriver à 2%, tu arrives à 1983, troisième trimestre de 1983. Fait que 3 ans. Ça fait à peu près un an là, qu'on deal avec de l'inflation.
Septembre 2021.
Puis je veux juste dire ça de même, les augmentations des taux, la contraction de la masse monétaire à l'époque était nettement plus prononcée que celle d'aujourd'hui. C'était pas genre les petites contractions qu'on voit maintenant, c'était pas les petits ajustements. La Banque centrale, quand elle a pesé sur le frein en 1981, elle a pesé sur le frein en tabarnak. Aujourd'hui, on est comme, oh ben je vais faire du stop and go, hein. Je vais comme gosser avec le frein un tout petit peu, je vais niaiser. Je te garantis que ça se termine pas dans les prochains, écoute, dans les prochains 2 ans.
La question, je l'ai posée directement à Éric Girard, avec, je trouve ça quand même le fun de ce côté-là, parce que j'ai eu vraiment sa façon de penser. Lui, il nous a dit, il m'a regardé dans les yeux quand il l'a dit. Là. L'année prochaine, pas l'année prochaine, la Banque du Canada, on a eu notre dernière hausse de taux. La prochaine annonce qui va avoir un impact va être une baisse de taux dans sa tête. Et de son propre aveu, les États-Unis vont vivre une hausse de taux de 0,25 et ça va être la dernière hausse de taux des États-Unis. Ça, c'est ce qu'ils pensent présentement.
Mais ça, c'est de l'information, entre guillemets, parce que lui, il est plugué sur des affaires que nous autres, on n'est pas, ou c'est juste qu'il a lu le dernier article du journal Les Affaires? Là.
Non, c'est le wishful thinking parce que...
Yep.
Quand tu arrives, tu dis, c'est justement le vrai enjeu qui était caché, c'est ça qui me fascine de voir qu'il n'y a personne dans les médias qui parle de ça, mais le vrai enjeu, c'est la négociation avec le secteur public. Fait que moi, je pense qu'ils sont arrivés, ils ont dit à leurs économistes, écoutez, il faut absolument qu'on démontre que l'inflation, c'est fini dans le scénario de base économique. Puis pas juste qu'elle est finie, là, tu sais, qu'on est revenu à 3%. Il faut qu'elle revienne en bas de 3%. Même, il projette 2024, c'est une inflation qui est à 2% pour être capable de dire que les taux d'intérêt vont baisser aussi.
Hey, c'est pas long, 2024. Là. À l'échelle temporelle,
c'est 9 mois.
C'est pas long. Là.
C'est 9 mois, même pas. On est rendu à 8 mois là, de 2024.
Les prochaines années vont vraiment être atroces.
Ben, moi, je pense que le budget de l'année prochaine, ça va être une catastrophe. Dans le sens que... ils se sont coupés ces revenus-là avec la baisse d'impôts, première des choses. Deuxième des choses, ils ont pigé dans le fonds de génération déjà. Il va falloir qu'ils retournent piger dans le fonds de génération probablement pour rebalancer le budget. Parce que la suspension de la loi de l'équilibre budgétaire a été enlevée. Là, tu dis, hein, de quoi tu parles? Ben, c'est que
ouais, pendant la COVID, ils avaient enlevé ça pour pouvoir faire des déficits monstres.
Tout gouvernement doit faire des budgets équilibrés sur le prochain 5 ans. Fait que si tu as un déficit, c'est correct. Si dans 5 ans, tu n'as plus de déficit. Ben là, ça, c'est une loi au Québec. Ben là, quand ils ont eu du trouble pendant la COVID, ils ont suspendu la loi. Mais là, ils ont enlevé cette suspension-là. Fait que là, le budget qui a été présenté, il était équilibré sur 5 ans. Là, tu te dis, est-ce que c'est n'importe quoi pareil? Tu fais une loi, puis là, quand ça ne fait plus ton affaire, tu enlèves la loi. Crisse-moi ça au vidange tant qu'à ça, cette loi-là. C'est all fake, toute cette affaire-là. Mais tu sens vraiment qu'il y a une déconnexion. Tu sais, l'entrevue qu'on a eue avec Philippe Couillard, moi, elle a été révélatrice beaucoup sur la direction qu'il prenait puis le sérieux qu'il prenait à améliorer les finances publiques puis le ratio de la dette sur le PIB à long terme dans les années où est-ce que ça allait bien. Puis tu vois qu'ils ont pris ça réellement au sérieux de leur côté parce que même les graphiques qui étaient fournis par le ministère des Finances, il y a certains graphiques qui montraient vraiment comment que la dette par rapport au PIB a réellement été attaquée avec les libéraux et ça se termine exactement quand la CAQ est élue. Et là, il y a carrément un changement qui est majeur à ce moment-là, où est-ce qu'on la pente devient beaucoup moins steep, puis que là, on voit que c'est moins une priorité gouvernementale de faire baisser la dette par rapport au PIB. Là.
Ouais, je vais te dire une affaire, là, il y a beaucoup de pensées magiques là-dedans. J'écoutais parler hier.
Sérieusement, là, moi, ça... Bon... on mettra de côté les partis d'opposition qui ont tous décidé qu'ils voulaient dépenser plus, notamment le parti libéral.
Oui, mais le Parti libéral...
Les citations autour du mot maintenant, à chaque fois.
Le Parti libéral, y a-t-il quelqu'un qui peut lui rappeler qu'eux autres aussi étaient pour les baisses d'impôts pendant la campagne électorale? Là, c'est comme si il n'y a plus rien qui existait, puis... OK.
Ta gueule, Frank.
Hey, ça m'écœure, moi, des politicos de même. Asti, ça m'écœure.
Non, mais les baisses d'impôts, c'est juste bon dans les élections. Puis surtout, bien en plus, dans les élections, ce qui est le fun, c'est que tu peux proposer des hausses de dépenses puis des baisses d'impôts, puis faire un budget tout balle bâclé, avoir Carlos Letao qui vient s'excuser de l'avoir fait, puis tout le monde l'a oublié.
Fait que, tu sais...
Hey, lui, il est temps qu'il sorte de la politique. Il est sorti, ben, Carlos?
Il est parti. Il a quitté. Là. Il ne se représentait pas. Là.
Une chance.
Il y avait des rumeurs qu'il briguerait la présidence du parti. Mais,
Non, va pas là, Carlos. Va pas là. Laisse Marois Risky fermer la lumière. Là.
Non, ça va être...
Ils ont de la misère à décrocher. Là. J'ai encore vu une entrevue de Gaétan Barrette. Là. Il était
Non. On ne parle pas de Gaétan Barrette ici. Là. Je m'excuse, mais il y a des limites à ma patience aujourd'hui. J'ai déjà de la difficulté à digérer le budget. Là. Je n'ai pas envie de digérer les propos de Gaétan Barrette. Là.
Mais c'est un budget que c'était très cac, là, ce budget-là. Là. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire plaisir à tout le monde. On va faire taire la gang du DEM et les conservateurs en mettant un peu de bleu.
T'avais du bleu foncé, t'avais du orange, t'avais du rouge, t'avais du bleu pâle.
Il y avait des logements sociaux, il y avait du vert.
Toutes les couleurs. Vraiment, la CAQ, là, c'est la preuve qu'une coalition arc-en-ciel, ça marche, mais ça a l'air schizophrène comme faux. Ça donne pas des bons budgets.
Moi, je suis tanné de l'espèce de faux dilemme tout le temps de si on coupe, là, c'est la personne qui est d'une banque alimentaire puis qui va souffrir.
C'est tellement pas vrai.
Là, t'es comme, excuse-moi, là, je peux te faire à brûle pour point de même au moins une dizaine de places que tu peux complètement enlever puis ça changera strictement fuck all dans la vie des gens. À commencer par le ministère de la rétine puis des trucs numériques, là. Excuse-moi, tu peux prendre ça, crisser ça d'un vidange, puis ça change absolument rien dans la vie de personne.
Sauf Eric.
Moi, je sais que Vincent dit qu'il n'y a pas de preuves de ce côté-là au niveau économique, mais moi, je suis persuadé que la baisse d'impôts n'est pas dans le budget. Puis c'est pas les soupes populaires qui sont mieux financées demain matin, c'est les fonctionnaires qui ont plus de capacité de négocier leur contrat de travail. Point final. Là.
Exactement. Ça vaut la peine de souligner que il y a un autre ministère que tu l'éliminais au complet. Probablement que tu aiderais la performance économique du Québec et tu réduirais les dépenses avec aucun coût. C'est tout le ministère de l'énergie, le ministère du développement économique, anciennement connu comme le ministère de l'industrie et du commerce. C'est uniquement un ministère des subventions. Tu enlèves tout ça, plus tu enlèves Investissement Québec.
Il y a trois ministres des Caribous, là. Il y a trois fucking ministères des affaires de langue. Là. Un, ça peut-tu être correct? Un. Non, il n'y a pas de gras coupé. Vous allez priver des jeunes défavorisés de déjeuner. Puis, tu sais, des affaires, là, la veuve et l'orphelin pour te tirer une larme. Arrêtez, là.
On va proposer quelque chose de très Milton Friedman ici. On va proposer l'impôt négatif, c'est-à-dire que tu as jusqu'à un certain montant, tu reçois une aide qui diminue progressivement de telle sorte que tout le monde est à peu près assuré une base. Et après ce montant-là, tout le monde a le même taux de taxation. Mais en gros, tout le monde a un montant garanti.
Mm-hmm.
Okay? Puis ça inclut ce qu'on voudrait couvrir pour l'éducation, la santé, en gros, ce qu'on pourrait appeler les besoins essentiels des gens, l'éducation universelle, la santé accessible. Mais on élimine tous les ministères. Okay? Il n'y a plus de staff. Le seul staff qui reste, c'est le ministère du Revenu qui collecte.
Le seul efficace.
il reste aussi le ministère de la Justice, de la Sécurité publique, le Conseil du Trésor, quelques trucs comme ça. Mais après ça, tu as plus rien. Tu laisses tout, t'enlèves tous ces ministères-là. Les gens, après ça, peuvent s'arranger comme ils veulent. Puis, tu peux mettre le montant un petit peu plus généreux là, que ce qu'on a présentement. On fait juste dire que toutes les sommes qui sont des services directs, on les prend, on ajoute 50 %, puis ça, c'est ce que les gens reçoivent. Mais après ça, il n'y a plus aucun fonctionnaire qui fait de l'administration. Tout ce qui reste, c'est le ministère du Revenu. Je te garantis qu'on coupe l'État québécois d'à peu près un cinquième en termes de taille, puis que la qualité des services que les gens vont consommer va augmenter. puis la croissance économique va s'améliorer. Si vous êtes d'accord à l'idée de faire ça, vous êtes crédible. Mais si ce que vous voulez, c'est vos petits programmes spéciaux, vous n'êtes pas sérieux. Ce que vous voulez, c'est d'avoir de pouvoir donner des nananes, puis vous aimez ça, faire des programmes spécifiques, ciblés pour certaines personnes, parce que ça vous permet d'aider les gens que vous trouvez plus importants que d'autres. Fait que, go fuck yourself.
Moi, parfaitement, non, il y a un clientéliste.
Je suis vraiment pas généreux aujourd'hui.
Non, mais il y a un gros clientéliste dans le budget, ouais. Ça, je te le concède. Puis, de mémoire d'homme, je me demande, c'est quand la dernière fois qu'on n'a pas eu un budget clientéliste. Il faut quand même être honnête aussi. Là, c'est ce qui est fait au Canada depuis très, très, très longtemps. En fait, je pense. Comment je te dirais? J'ai apprécié le budget d'hier seulement pour la baisse d'impôts. Honnêtement, là, je dois être honnête. Puis c'est pas que je suis là, hey, qu'est-ce que je vais faire avec mon 1600$ qu'on a, moi, puis ma femme. Puis tout ça, il n'y a rien de ça là-dedans. Là. Mais, tu sais, je sais que la population le voulait, puis la population l'a eu. Là, puis c'est quoi qui est récurrent, tout ça. Fait que, tu sais, je vois toutes sortes de gens attaquer cette affaire-là aujourd'hui, puis je me dis, c'est donc bien malhonnête, votre affaire.
Ouais, moi, ça, c'est le bout que j'embarque. Ben, tu sais, que je suis d'accord avec toi là-dessus, que. Juste pour le fait qu'il ait tenu tête aux petits crises de lobby qui tournent autour du gouvernement pour dire que sinon, c'est pas le temps, puis qu'avec ça, on aurait pu payer un bain au père de Peter Simon ou je sais pas trop quoi. Juste pour ça, je suis content, parce que maner ces gens... Non, mais maner ces gens-là, s'ils peuvent-tu prendre leur trou, là? Moi, c'est... je veux dire, qu'est-ce que pense le président de la CSN sur les baisses d'impôts? Je veux même pas le savoir. On le sait que la réponse était non hier, non aujourd'hui, non demain, puis non jusqu'à la fin des temps. Fait que, tu sais, moi, genre, c'est irrelevant. Tu sais, fait que les gens en voulaient, ça a été promis, les gens l'ont eu. Après, on peut dire tout ce qu'on a dit sur comment c'est fait, comment c'est pas cohérent avec le manque de dépenses, avec le manque de coupe dans les dépenses. Regarde, on peut décliner ça jusqu'à demain soir, puis je suis d'accord avec tout ce qu'on dit là-dessus. Mais, hey,
mais ça aurait été
facile de chier dans les culottes puis de pas le faire. Ouais. C'est tout ce que je dis.
Je vais te lire le texte d'Emmanuel à travers parce que j'ai vraiment le goût de te mettre de bonne humeur.
Non,
il faut que je le fasse, ça va être drôle. Ça va peut-être même finir sur TikTok tellement ça va être bon. La mesure sera populaire. Elle est certainement populiste, s'inscrivant dans l'ADN même du gouvernement de la CAQ. François Legault a toujours misé sur une réduction du fardeau fiscal des Québécois. Il poursuit sur sa lancée. Mais à quel prix? Car la baisse d'impôts demeure modeste. Elle ne changera pas substantiellement le budget d'une famille confrontée à la crise de l'inflation. Pour une personne seule gagnant moins de 40 000 $, c'est l'équivalent d'un café et de quelques Timbits par semaine. Un couple au revenu familial de 80 000 pourra s'acheter un pot de yogourt grec de plus par semaine. Sans surprise, ce sont les mieux nantis qui sont les grands gagnants. La baisse d'impôts du couple gagnant 200 000 $ lui permettra d'acheter un billet d'avion vers l'Europe. Ça fait plaisir, mais ça coûte cher. Très cher, 9,2 milliards de
dollars. Ça coûte pas cher! Ça coûte pas cher! Arrêtez! C'est pas votre argent! C'est OK, là, l'idée que ça coûte cher à l'État. L'État, c'est pas nous. C'est pas vous. L'État, c'est un groupe de gens qui travaillent à l'intérieur d'une structure qui a un monopole et qui a la capacité d'imposer une certaine... violence qui est légitimée par la société, c'est-à-dire que si tu ne respectes pas certaines règles, on va te violenter, on va te mettre en prison, on va t'imposer une pénalité et on va, si tu refuses de la payer, on va t'imposer d'autres
arrête
pénalités.
Arrête d'expliquer des affaires, continue.
Ça, c'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas dire qu'il le fait pour ton bien. Arrêtez dans cette hypothèse-là, c'est d'un débile. Puis deuxièmement, t'es qui pour dire que la personne ne valorise pas la consommation de ces choses-là?
Des fucking Timbits. Tu veux-tu plus de Timbits dans une semaine ou quoi?
Moi, j'en ai pas de problème. Premièrement, j'en ai pas aux États-Unis, fait que je serais d'accord d'en avoir plus.
donc, mais c'est tellement insignifiant comme propos, là. Tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est qu'elle admet implicitement qu'il aurait dû être plus grande que ça.
Ouais, de un.
C'est ça que j'aime dans le propos, là, c'est que « Ah ouais, mais ça ne change pas grand-chose. OK, merci, donc tu es d'accord qu'il faudrait que le fardeau fiscal baisse encore plus. » Non, c'est pas ça que j'ai dit. « Yes, that's what she said. »
Well, that's what's implied. Mais il y a aussi un autre truc. Encore une fois, il va falloir le répéter. Au Québec, ceux qui payent de l'impôt, ce sont les gens riches. Fait quand tu entends des niaiseries comme ben 70% des bénéfices des baisses d'impôts vont aller aux gens de 70 000 $ et plus. No shit! C'est aussi eux qui payent 70% des impôts. Tu prends les tables fiscales du ministère du ministère des Finances, parce qu'ils le font. Ça s'appelle les statistiques fiscales des contribuables. Il y a aussi l'équivalent sur les tableaux. J'oublie le nom exact, mais tu peux voir selon les classes de redéclaration de revenus, quelle proportion de tous les revenus de l'imposition sur le revenu est obtenue par ça. 69-68% vient des 70 000 et plus. C'est sûr, c'est eux qui vont avoir le gros des baisses d'impôts parce que c'est à eux que tu demandes de payer. Au final, tu es pas mal dans le champ. Deuxièmement, dans ce qu'a dit, ce qui est absolument débile, c'est que tu présumes que la personne, son salaire ne va pas augmenter. La personne qui dit « Demain, là, j'ai une augmentation salariale, je peux passer dans une catégorie supérieure », bien, la hausse d'impôts va devenir plus importante à passer dans l'autre catégorie, d'avoir des promotions. Donc, il faut aussi considérer l'effet marginal qu'il y a, que les gens vont peut-être essayer d'investir un petit peu plus pour un effort parce que la prochaine unité va payer un petit peu plus qu'elle aurait payé auparavant. Donc, il faut que tu tiennes ça en compte. Donc, tu ne sais pas exactement à quel point c'est élevé. Puis, effectivement, comme Frank dit, tu es pas mal en train d'admettre que si on avait coupé les dépenses, si on avait arrêté de donner le ministère du Développement économique à Pierre Fitzgibbon, tu aurais sauvé à peu près 1,5, 1,6 milliard de plus pour avoir des baisses d'impôts. C'est une chose absolument incroyable que j'aimerais bien plus. Après ça, fais quelque chose comme éliminer le ministère de la Famille, puis que tu fais un transfert ciblé, plus de subventions aux garderies, toutes les garderies sont privées, tu fais juste un transfert sur le revenu qu'on avait estimé pour l'IEDM. Dans le temps, c'était 700 millions d'épargne que tu peux faire, tu le gardes au prorata de ce qui s'est passé depuis l'estimation, tu es à 1 milliard d'épargne, donc là, on est rendu à 2,7 milliards de baisse d'impôts. Je peux t'en continuer des dépenses à couper, hein? Je peux t'en continuer des choses.
Des dépenses, Vincent,
je vais t'en donner des plus grosses baisses d'impôts.
Strictement rien au service donné aux citoyens.
Ça fait plaisir, mais ça coûte cher, très cher. 9,2 milliards sur 5 ans pour un effet relativement marginal. Pire, ce sont 75% des nouvelles sommes consenties pour la croissance et la prospérité économique qui sont englouties dans des promesses électorales. Quelle vision! À l'ère de la course mondiale pour les technologies vertes face au défi monumental de la transition énergétique, le gouvernement Legault aura ainsi préféré jouer au Père Noël plutôt que de saisir l'occasion d'élaborer une vision économique pour l'avenir. Aux États-Unis, l'administration Biden a bouleversé tout l'équilibre mondial avec des investissements pharaoniques dans les technologies vertes, les sciences et l'innovation.
Oui, mais, OK, encore une fois, ça, c'est des niaiseries. C'est comme si on jugeait les choses en fonction de la quantité de trucs que tu mets dedans. OK, j'ai dépensé 700 milliards en éducation. On va exagérer le chiffre, là. J'ai dépensé 700 milliards en éducation. Regarde à quel point l'éducation est bonne. Non, tu m'as juste dit combien tu as dépensé. Je peux dépenser 700 milliards pour un taudis à Timbuktu. Ça ne veut pas dire que c'était une bonne dépense. Ça ne veut pas dire que j'ai bien dépensé 700 milliards. Jamais cette question-là est faite. Quand tu regardes la contribution, par exemple, juste les énergies vertes, parce que je lisais un papier là-dessus, tu regardes la contribution de qu'est-ce qui a généré, genre, la baisse des gaz à effet de serre aux États-Unis, des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il y a eu une petite baisse depuis 2008. Le premier contributeur, c'était la crise de 2008, donc les effets persistants de la crise de 2008 qui a eu un effet d'éliminer certaines industries qui ne sont pas revenues. Donc, il y a eu une petite partie qui était ça. Le reste, c'était le gaz naturel à comme 70 % qui expliquait ça, parce que le gaz naturel a remplacé le charbon. Et les énergies vertes, donc les éoliennes, le solaire, le géothermique, expliquaient comme 7 % de la baisse. Le gouvernement aux États-Unis a dépensé des fortunes sur l'énergie verte et a zéro dépensé sur le gaz naturel à toute fin pratique. Il a dépensé un petit peu. Là. Il l'a fait quand même parce qu'il faut quand même qu'il subventionne tout ce qui est possible de subventionner, mais ça s'est fait de manière privée. Fait que si tu veux vraiment sauver la planète, là, que tu es vraiment soucieux de ça, ça ne veut pas dire qu'un programme gouvernemental qui pitche l'argent à certaines choses va fonctionner. Puis non seulement ça, mais à un moment donné, il faut que tu réalises que quand tu donnes de l'argent à certains types d'énergie verte, le gouvernement décide laquelle il privilégie. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne. C'est possible qu'il y ait d'autres formes d'énergie verte qui seraient beaucoup plus rentables, que ce soit, par exemple, l'utilisation des courants marins, que ça soit possible, que ça soit l'utilisation du méthane, la récupération du méthane qui vient de la décomposition des déchets. Tu aurais plein de choses comme ça qui pourraient être des énergies vertes, mais qui ne sont pas celles que le politicien veut être devant avec un beau ciseau puis un ruban rouge. Oui, puis, oui. Puis regardez, c'est grâce à moi qu'il y a cette ferme éolienne ici. Ça ne veut pas dire que c'était la bonne chose. Ici, là, l'idée que c'est les politiciens qui vont nous sauver de la crise climatique, c'est comme...
You're right. Yeah, fait que là, sure. On se rappelle que sure. Biden a mis beaucoup d'argent. On continue le texte. Les montants sont tels que la concurrence...
Essaye de me tuer, man.
Yes, I know. C'est le but. Les montants sont tels que la concurrence devient presque déloyale. Aussi intéressante soit-elle, la filière batterie du ministre Pierre Fitzgibbon ne fait pas le poids. Certes, le budget Girard investit 888 millions sur 5 ans dans l'espoir d'attirer 100 projets d'investissement majeurs. Il poursuit le développement de zones d'innovation. Il plaidera certainement qu'il ajoute 1,4 milliard dans son plan pour une économie verte via les profits de la bourse du carbone. Mais il faudra attendre les détails du ministère de l'Environnement pour en saisir la portée économique. Passé versus avenir, santé, éducation, baisse d'impôts. Ce budget se veut une réponse classique au lendemain de la pandémie. Christian Dubé a les moyens de poursuivre son plan santé. Bernard Drainville mettra le cap sur la qualité du français et l'aide aux élèves en difficulté. Mais ce budget n'est pas une réponse aux défis de l'avenir. L'économie des prochaines décennies carburera à l'intelligence artificielle, à l'informatique quantique. Les biotechnologies, les technologies propres, les minéraux critiques seront le moteur des emplois payants auxquels rêve François Legault. Or, il n'offre pas une feuille de route précise et ambitieuse pour y arriver. Morale de l'histoire, ce budget s'inscrit dans la continuité du gouvernement de la CAQ, responsable, pondéré, généreux. Mais il n'est pas audacieux. Le ministre Éric Girard doit le savoir. Il se contente d'une croissance économique en deçà de 2 % pour les 5 prochaines années. On est loin de l'électrochoc qui permettrait au Québec de devenir un leader dans l'économie de demain.
Ouais, c'est rien que des buzzwords, là, cette affaire-là. Hey, l'informatique quantique, c'est quoi le rapport de ça? Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? C'est quoi qu'elle voulait, là, que le gouvernement mette 8 milliards pour développer... Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais qu'est-ce qu'ils racontent, ces gens-là?
En fait, probablement que le gouvernement aime utiliser ces mots-là parce que les gens ne savent pas exactement c'est quoi. Puis là, ben ça a l'air fancy. C'était comme... C'était quoi celui d'Hydro-Québec, là, le moteur roux? Parle encore depuis les années 90, qu'il y a encore des gens qui parlent. On en avait parlé dans un autre épisode.
Oui.
90 % des gens, probablement, ne comprenaient même pas la physique chose. Mais ça avait l'air cute parce que c'était le moteur roux. Il y avait quelque chose, tu sais, de mystique qui était appelé. C'est vraiment... Il y a un aspect de sorcellerie à la politique. On espère que ça va tellement étrange à la personne que il y a comme un effet de magie. On est fasciné par ça. Ça
faisait longtemps que tu n'avais pas lu un texte d'Emmanuel Latraverse au complet. Hein, mon
non, non, mais il y a une raison pourquoi je...
Rappelle-toi que magique
je ne me garde pas avec ces choses-là. Là.
Ah, c'est ça.
T'sais, quand je m'analyse, je me demande c'est quoi le journal que je lis. Ça inclut pas le Journal de Montréal. Ça inclut
non, c'est mieux
Journal même. Of Economic History.
Bon, tu Journal of Political... Non,
non, non, mais tu apprends plus dans des revues puis des journaux scientifiques, dans des podcasts que tu apprends en lisant un texte de Chantal Hébert ou de Michel Chéaugier ou de Emmanuel Latraverse. Tu apprends beaucoup plus en lisant des choses qui ont de la substance que quelqu'un qui est littéralement payé à répéter des buzzwords que je pense pas qu'elle a compris ou analysé à aucun moment.
Ben, en fait, c'est ce qui est le fun avec ces gens-là, c'est qu'ils te sauvent beaucoup de temps parce que tu as juste besoin de lire un des textes parce qu'ils ont tous dit la même chose.
Fair enough.
Fait que tu sais, c'est au moins, moi, ils me sauvent du temps. Fait que je les remercie de toutes répéter les mêmes niaiseries. Comme ça, j'ai pas besoin de lire tout le monde. Parce que si j'ai lu Michel Chéaugier, je sais ce qu'Emmanuel Latraverse a dit, je sais ce qu'un autre a dit, je sais ce qu'ils ont tous dit. C'est toute la même affaire, c'est que les baisses d'impôts, c'est pas bon, puis qu'on aurait dû pitcher ça dans la santé, puis enfin, on aurait eu des bonnes infirmières bien payées. Bref,
on aurait eu un Top Gun, man!
Des conneries, c'est des conneries. Là. Si vous n'avez pas compris, c'est des fucking conneries, cette affaire-là, là. De prendre 1,7 milliard, puis le système de santé va être meilleur. Je veux dire, ils ont pompé des milliards depuis la pandémie dedans, il n'a jamais été aussi mal. Il faut arrêter de penser que c'est en garochant de l'argent là-dessus, throw money at the problem, qu'on va régler quelque chose.
C'est la manette une autre fois, Frank. Peut-être qu'on va l'avoir, nos trois cerises.
Ah oui, c'est ça. Ah oui, on va tirer.
On va l'avoir, le jackpot.
Mais c'est ça, l'économie casino. C'est vraiment ça. C'est
le gouvernement casino.
c'est le gouvernement casino. C'est, on tire le crin à toutes les fois et on dit ah, il va y avoir trois cerises. Non, c'est ah, finalement, il y a une banane, une cerise et une vieille sandwich. OK, on recommence. Non, mais c'est carrément de la. Et hey, puis, l'autre affaire, les partis d'opposition, c'est tellement insignifiant ce que ces gens-là racontent, Chris, que tu as le goût de virer Kakis. C'est pas peu dire.
Wow.
Écoute, non, mais écoute, j'écoutais.
Faut que tu aies mis de Pierre Fitzgibbon, parce que j'imagine Frank être l'attaché de presse de Pierre. Là.
Ah non, Pierre, je ne l'ai pas vu réagir encore, mais c'est sûr que s'il le fait, je vais écouter ça attentivement. Mais j'écoutais Pat Patrouille et GND. Les deux se font demander par les. Hey, c'est pas des jokes que je vais vous conter là. Les deux se font demander par les journalistes. Qu'est-ce que vous vous attendez? C'est quoi vos attentes par rapport au budget qui va être dévoilé aujourd'hui? Et les deux répondent, le plus sérieusement du monde, nos attentes, c'est qu'il n'y ait pas d'argent pour un troisième lien à Québec dans le budget. Là, tu es là, puis tu te dis, mais c'est ça, vous autres, votre enjeu. Puis là, ils sont très sérieux, ils disent ça. Puis la phrase d'après, ils disent, ouais, mais ce gouvernement-là, il n'y a pas de vision d'avenir. Hey, votre vision d'avenir, vous autres, c'est vous opposer à la construction d'un fucking pont-tunnel. Ça va? What's going on, buddy? Y a-tu quelqu'un là-dedans? Ding, ding. Non, c'est does not compute. Hey, vu qu'il faut faire ça short aujourd'hui, il n'y aura probablement pas d'over. On voulait parler un peu de l'inflation, là, Vincent, parce que.
Ouais, parce que. En plus, tu vois, regarde, juste pour dire, ça, c'est une des fois que c'est moi qui ai hijacké ce que Yann voulait faire. Yann voulait parler 5 minutes du budget, puis le reste du temps d'inflation. Puis tu vois, j'ai hijacké ça. On a fait plus que la moitié du temps sur le budget. Là, j'ai hijacké Yann. Je comprends comment ce qu'il sent. C'est vraiment le fun d'hijacker une conversation.
Et il y avait un article encore hier. Non,
c'est
là,
pas dans narcissique, le...
On est tous des gens très humbles ici. Qu'est-ce que j'avais? J'avais l'article hier.
Tellement humble pour être président.
Oh, oui, je l'avais mis dans le feed. Je vais vous le partager à l'écran. Bon, là, ça devient compliqué à comprendre là, pour les gens, là, sur le phénomène de l'inflation. Là, parce que
ça, c'est la fameuse phrase qu'on a tout le temps. Là. Si on exclut l'épicerie, l'essence et maintenant l'hypothèque, l'inflation est sous contrôle au Canada. On est déjà rendu à 1,8%.
Ben là, regarde, tu vois des articles de même, là, tu vois, l'inflation en perte de vitesse, puis là, ben, ils mélangent tout plein d'affaires là-dedans. Ouais, l'IPC, là, il est passé de 5,9 à 5,2, mais le coût du panier d'épicerie, lui, augmente à presque 11% sur un an. Puis là, ben, tu sais, à un moment donné, si tu veux expliquer de manière claire, puis là, en plus, on te l'explique par mois, fait que là, dans le texte, il y a le 0,4% en février, 0,5% en janvier. Tu sais, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas nécessairement de formation là-dedans ou qui s'intéresse comme à la question de manière personnelle, dans le sens qu'il veut savoir quand est-ce que ça va arrêter de m'augmenter tout le temps les prix à chaque fois qu'il achète de quoi. Là. Mais tu sais, ça devient dur à suivre un peu. Puis, tu sais, l'autre fois, il y avait l'extrait du journal que je vous avais envoyé, justement, Yann, que tu viens de faire référence, où tu avais quelqu'un qui disait « l'inflation est déjà rendue à 2% parce que si on enlève telle affaire, on enlève telle autre. » Puis, tu sais, la réaction, c'est un peu celle que je vous avais imagée par mes propos colorés où j'avais dit « tu sais, si j'exclus ma maîtresse puis le bord de danseuse, je suis un homme fidèle. » Puis là, Et ça, il avait dit, ouais, mais il faudrait expliquer dans le podcast c'est quoi le core inflation versus l'inflation, puis tout. Fait que, tu sais, on peut prendre quelques minutes pour parler.
Ouais, là-dessus. L'idée, c'est que ce que les banques centrales veulent éviter, les banques centrales doivent jamais répondre à des changements de l'offre. Parce que quand des changements de l'offre, c'est des trucs qui sont hors du contrôle. La monnaie n'affecte pas l'offre. Dans le long terme. Fait que si tu as une crise du blé dans un pays, ça va augmenter. La raison que les prix vont augmenter, ça va être parce qu'il y a moins de blé. Donc, tu devrais laisser les prix augmenter pour informer les gens que peut-être tu devrais réallouer des ressources vers ça. Mais l'affaire, c'est que quand la Banque centrale regarde juste l'indice des prix à l'inflation, l'indice des prix à la consommation, tu ne peux pas distinguer ce qui vient des chocs sur l'offre, de l'effet de la politique monétaire qui joue essentiellement sur la demande, l'aspect de demande de l'économie via l'offre de monnaie qu'eux mettent en circulation. Comment tu fais pour distinguer? core versus headline, ou entre l'IPC puis l'indice d'inflation de base, le core, c'est parce que celui qui est core n'a pas deux composantes qui sont très volatiles, l'essence et la nourriture, qui ont beaucoup de chocs d'offres qui sont généralement très transitoires. Et comme c'est des grosses parties de nos budgets, dans l'indice des prix à l'inflation, la volatilité qui vient de l'offre sur ces produits-là nous donne l'impression que peut-être il y a de l'inflation pendant une courte période de temps, mais c'est transitoire, mais ce n'est pas un truc qui est lié à la demande. Donc, les banques centrales utilisent les deux simultanément dans l'espoir. Je ne pense pas qu'ils réussissent très bien nécessairement, mais l'objectif théorique, c'est que tu peux distinguer un choc sur la demande d'un choc sur l'offre. Et donc, c'est quoi ta bonne réponse à faire? C'est pour ça qu'il y a une distinction entre les deux. Maintenant, ça ne veut pas dire que le core inflation, parce qu'il y a une possibilité que tu aies des chocs positifs sur l'offre. Donc, tu as eu une super bonne saison en quelque part qu'on ne s'attendait pas. On a découvert des gisements qu'on ne connaissait pas. Donc, il y a des augmentations de l'offre qui sont transitoires pour un court moment. Donc, ces prix-là, en fait, baissent pendant un moment. Fait que ça ne veut pas dire que ce qu'on observe, c'est nécessairement un signe de succès. Ça veut juste dire qu'on a isolé un peu des effets de l'offre, des effets de demande.
Et le housing n'a jamais été exclu du core inflation. Quand on fait cet ajout-là supplémentaire, c'est là où est-ce que moi, c'est vraiment, je dis, elle lève le flag puis je débarque. Premièrement, le housing, souvent dans l'IPC, va représenter quasiment 30% de l'indice, première des choses. Fait que là, tu dis, OK, tu viens d'enlever une grosse partie de l'indice de l'histoire. Puis c'est qu'à un moment donné, il y a un effet de substitution aussi qui s'effectue, dans le sens que si t'arrives, ton but, c'est de mesurer l'inflation, c'est l'augmentation générale des prix. Puis là, tu commences à exclure du stock, tu te dis, ben OK, si ça ne représente pas trop un gros pourcentage, peut-être que l'impact va être minime. Mais si tu exclues le housing, qui lui, présentement, les coûts augmentent très vite, puis tu te dis, regarde, le reste est juste à 1,8, donc on a pas mal contenu la patente. Non, mais attends un peu, là. Les prix sont tellement en train d'augmenter vite pour le housing, pour les gens, parce que les loyers augmentent et les renouvellements hypothécaires arrivent. Donc, c'est tellement ce volet-là est tellement en train d'augmenter vite que ça réduit probablement la demande des autres items dans le panier d'épicerie, des autres items dans le panier de consommation du consommateur. Ce qui fait en sorte que, oui, probablement dans d'autres secteurs, le secteur des services peut-être, par exemple, je dis ça comme ça, les prix vont avoir tendance à se stabiliser plus vite ou même à baisser peut-être. Mais c'est parce que tu as un mastodonte dans le prix, dans le calcul de l'indice des prix à la consommation qui, lui, augmente vraiment vite. Fait que tu ne peux pas arriver et l'exclure tout bonnement et te dire « Regardez, on est déjà en bas de 2%, tout va bien. » Ça ne marche pas, cette affaire-là, parce que la modification du panier d'épicerie, ou non, pas le panier d'épicerie, mais du panier de consommation des gens va s'effectuer parce qu'il va y avoir des substitutions, surtout quand il y a des catégories d'actifs ou des catégories de biens de consommation qui vont augmenter beaucoup plus vite que les autres. Effectivement, à un moment donné, j'étais là, je dis, on est-tu en train d'essayer de faire de la statistique pour aller identifier du wishful thinking? Là? On veut tellement que l'inflation soit sous contrôle, puis on veut tellement passer à un autre sujet qu'on est en train, à un moment donné, de gratter. Puis ça vient pas de la Banque centrale, là, ça vient de certains analystes. Mais je comprends l'idée de l'utilisation du core inflation dans certains cas, dans un contexte de taux d'intérêt ou de taux d'inflation un peu plus normaux. Mais dans un contexte où est-ce que là, l'inflation est rendue en haut de 5% puis 6%, puis oui, il y a un cool down, oui, il y a une désinflation qui s'effectue, mais on n'a pas atteint notre objectif. On n'est pas rendu en bas de 3%. Là. On est encore à 5,2. Tu sais, à un moment donné, on est-tu en train de vouloir ralentir l'agressivité de la politique monétaire au détriment que peut-être l'inflation pourrait repartir à la fin de l'été ou des choses comme ça? Là.
Écoute, je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont présentement en train de célébrer peut-être un peu trop vite. Ils voient quelques signes encourageants. Ils se disent, OK, c'est correct, on peut enlever le pied sur le frein. Mais la réalité, c'est que, puis surtout avec les craintes qu'il y a d'échecs de banque, il y a deux choses à dire. La première, c'est que c'est un peu nécessaire quand tu as eu une période d'inflation, que tu as injecté trop d'argent puis tu veux l'éliminer, ben c'est un peu normal que tu vas avoir des faillites. C'est-à-dire ça fait partie de la game. Puis malheureusement, puis ça, c'est la leçon éternelle. ça n'existe pas, les soft landings. C'est que si tu pars sur une brosse, tu vas avoir un lendemain de veille. C'est pas, tu peux pas. Malheureusement, il n'y a pas de solution magique. L'idée que les économistes peuvent être des ingénieurs sociaux qui savent exactement comment faire ça, c'est généralement assez limité. Ils ne sont pas capables de le faire, en fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle pour les banques centrales minimales, mais...
On voudrait tous consommer exactement la bonne quantité d'alcool pour avoir juste assez de plaisir puis pas mal à la tête le lendemain. Mais on n'en est pas capable. Soit qu'on ne boit pas assez puis finalement, on reste sobre toute la veillée, ou qu'on boit trop puis qu'on a viré à la brosse puis on n'est pas qui. Mais c'est rare que vous allez trouver quelqu'un et dire hey, « j'ai bu là, exactement ce qu'il fallait que je boive pour être juste dans la bonne zone de plaisir sans effet négatif. »
Oui, puis le lendemain, j'avais pas mal à la tête, je me sentais pas bizarre. Puis, même à midi, j'ai recommencé à boire, tout était correct.
Ouais, ça arrive ça, pas, ça.
Mais non, mais c'est ça. En gros, tu peux pas faire ça. Fait que c'est un peu normal que tu aies des contractions. L'autre chose aussi qu'il faudrait qu'il soit souligné, les faillites de banque, ça dépend vraiment du cadre institutionnel qui existe. On oublie que, par exemple, aux États-Unis...
C'est fréquent aux États-Unis des faillites de banques.
Ben, c'est ça, parce que les États-Unis ont des lois vraiment stupides sur les banques. Tu sais, on dit que les banques canadiennes sont super réglementées. Sur certains domaines, oui, mais en moyenne, c'est probablement les banques les moins réglementées dans le monde. Parce que, par exemple, dans la Grande Dépression, une des règles qui a causé aux États-Unis, je pense, en fait, les historiens économiques commencent à être pas mal d'accord que c'était plus important qu'on avait apprécié. Tu avais une règle qui était que tu ne pouvais pas faire du branch banking. Si tu avais une banque en Iowa, tu pouvais juste avoir des succursales en Iowa, mais tu ne pouvais pas ouvrir dans d'autres États. Tu peux imaginer qu'est-ce qui se passe. Tu as des banques qui sont hyper régionales, qui ont des petites bases de capital. Tu as un choc qui se produit.
En Iowa.
Après ça, ben c'est ça. Après ça, ton capital commence à se contracter, les banques doivent faire faillite. Mais là, la banque qui fait faillite dans l'État de l'Iowa, ben, peut-être que certaines de ses actions sont des actifs d'une autre banque. Fait que là, une autre banque, juste à cause d'un choc régional, se retrouve à voir la valeur de ses actifs diminuer. Ben,
la SVB, donc, c'est spectaculaire. C'est pas juste régional. C'est en plus quasiment juste dans un secteur économique. Tu sais, c'est encore c'est plus spectaculaire qu'une banque régionale, d'un certain sens.
Là, je n'ai pas étudié les lois bancaires depuis la Grande Dépression. Je suis beaucoup plus familier avec le passé qu'avec le présent.
Mais tu as encore des restrictions. Je ne tentais pas de rentrer dans les détails.
Non, ça me faisait peur à regarder. Mais tu as encore des restrictions. Tu as des divisions entre les types d'activités bancaires qui existent aux États-Unis, entre les types d'offres de crédit que tu peux faire. Donc, ce que tu as, c'est que tu as un marché, que tu as des segments et ils sont tous individuellement fragiles. Au Canada, des banques peuvent faire pas mal ce qu'elles veulent et avoir pas mal. Sont diversifiés. C'est pour ça que quand tu regardes dans l'histoire économique du Canada, des faillites de banques, tu en as une.
Il y en a une
histoire. Depuis la Confédération d'une grosse banque qui a fait faillite. Ou
c'est
qui
laquelle?
Approche...
T'as-tu le nom?
Non, je ne me souviens pas exactement. Il faudrait checker. Il y en avait une. Je sais qu'il y a eu un moment où la Banque nationale était vraiment en gros danger dans les années 20. Puis le gouvernement du Québec avait aidé. Mais les faillites bancaires dans l'histoire du Canada, c'est beaucoup plus limité parce que ils peuvent s'ajuster beaucoup plus facilement. Ils ont des bases plus diversifiées. Donc, quand il y a un choc...
Il y en a deux. La Banque commerciale du Canada, la CBC et la Norbank en 1985.
Mais la CBC est encore debout, par contre.
En tout cas, ça a peut-être changé de nom à ce moment-là, puis c'est pas CIBC, c'est CCB.
OK.
La Banque commerciale du Canada.
OK. Donc, les chiffres que j'ai quand je disais 1, ça devait être un truc plus historique, puis je n'ai pas mis à jour. Mais tu compares avec les États-Unis, même dans des années d'expansion économique, tu avais des banques qui faisaient faillite de manière assez récurrente. Au Canada, les réserves, les banques sont pas mal.
T'as 4000 banques aux États-Unis, c'est pas compliqué. Là. Même
exactement,
plus que
ils sont toutes très petites. Ils ont un lobby super puissant, soit dit en passant.
RBC va aux États-Unis, c'est une méga banque. Là. En termes de capitalisation boursière, RBC, c'est une des grosses au monde. Là. TD, même affaire. Là. Les banques américaines sont vraiment beaucoup plus petites que les banques canadiennes.
Oui, puis non seulement ça, mais je suis convaincu que si demain matin, tu avais une déréglementation complète du secteur bancaire aux États-Unis, là, que tu gardais seulement certaines composantes de risque dans la réglementation, je te garantis que tu te retrouves peut-être avec une vingtaine de banques aux États-Unis. Tu as un paquet de mergers and consolidation qui se produisent. Il y a littéralement trop de banques aux États-Unis qui sont super fragiles individuellement.
Fait que je vais vous donner des chiffres. Citigroup, là, c'est 86 milliards de capitalisation boursière. Je vais vous donner RBC.
C'est gros, Citigroup aux États-Unis, là.
Oui, exactement. RBC, RBC.to, je pense, de mémoire, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est quoi donc RBC? Le code? Banque TD. OK, banquetd.to, je vais l'avoir au site. Market cap, 144 milliards de dollars, la TD. Fait que la TD est vraiment plus grosse que la Citigroup. Mettons, c'est Bank of America qui est assez gros aussi. Oui. DAC. Là, un peu plus gros, là, 225 milliards. Mais vous voyez que TD puis Bank of America, ça se compare, là. Ça se compare vraiment. Voyons, c'est quoi,
Desjardins est pas mal gros pour. Tu mettrais Desjardins, c'est pas mal un des plus petits au Canada en termes de services bancaires qui sont fait, même si c'est un credit union. Ouais. Tu déplaces Desjardins aux États-Unis, au lieu d'être le dernier de classe, il est genre nettement en haut de la moyenne. Il n'est pas dans le top, mais il est nettement en haut de la moyenne.
179 milliards RBC. C'est vrai, c'est RY.TO, le code. Fait que Bank of America puis RBC, tu sais, des fois, on a l'impression que les Canadiens, nos compagnies sont tout le temps un peu plus petites que les compagnies américaines. Tu sais, on n'est pas... Mais nos banques, c'est pas le cas. Là. Nos banques, c'est des joueurs gigantesques là, par rapport à ce qu'on est habitué dans d'autres pays. Là.
Anyways. Pourquoi est-ce qu'on... Ah oui, pour revenir à l'idée que les faillites de banques, c'est pas un truc hyper fréquent. Puis c'est... Si la réglementation permet des banques d'être diversifiées. Fait que la crise aux États-Unis, c'est pas tant l'idée qu'il doit avoir une contraction qui fait mal. La contraction va faire plus mal parce que les institutions, les lois bancaires aux États-Unis, la réglementation est trop sévère. Donc, tu fais en sorte, pour des raisons réelles, donc quand on dit « reals » en économics, c'est genre pas des trucs financiers, pour des raisons réglementaires, tu es en train de rendre la récession qui est inévitable encore plus pénible. Fait que l'État a causé le problème en donnant de l'alcool à un alcoolique. Puis après ça, quand c'est le temps de passer au lendemain de veille, il s'assure que tu peux pas manger ta poutine le matin, tu peux pas manger un œuf et bacon. Fait que ton lendemain de veille, il te fait encore plus mal.
Puis il te redonne une bouteille de bière souvent.
Oui, puis après ça, quand t'es prêt à repartir, là, il était là, c'est une bière.
Fair enough.
C'est quand même ça. Mais fait que toutes ces affaires-là de core inflation, t'es pas mal d'accord que ça a son utilité, mais présentement, dans le débat, c'est un peu futile. On n'est pas là.
Dans les médias, ils comprennent pas. Écoute, journaliste moyen, c'est pas exactement ce de quoi est-ce qu'il parle quand il en parle. Puis tu le vois dans cet article-là. Il pense que ça veut dire ça, mais ça veut pas nécessairement dire ça. Puis si tu demandais à un économiste de parler de ça, il dirait pas ce que la personne a écrit. Même si c'est un économiste super à gauche ou à la limite un décroissantiste, il dirait pas la même chose qu'elle a dit.
Ouais, puis c'est surtout que maintenant, là, tu sais, comment je pourrais dire ça? Des fois, il y a des informations qui sont peut-être vraies d'un point de vue théorique, mais dans certaines circonstances, peut-être mieux de ne pas les utiliser parce que la pédagogie pour essayer de les faire comprendre n'est pas là. T'sais, quand tu dis à des gens qui vont à l'épicerie et sont comme, hey, ça me semble que ça me coûte le double de ce que ça me coûtait l'année passée, puis tu t'en vas lui dire, ah là, ben, de toute façon, là, l'inflation est déjà en bas de 2% là, si on enlève. T'sais, c'était évident que tu allais mettre le feu derrière des gens en utilisant ça. Il n'y a pas de pédagogie, c'est juste une information garochée de même qui n'est pas pertinente dans l'information. Là,
en tout cas, pour conclure le podcast, les amis, je vous souhaite tous que le scénario économique du ministère des Finances va être le bon. Parce qu'en bout de ligne, on est obligé de dire que c'est réellement souhaitable. Pas de récession en 2023, fin de l'inflation en 2023, baisse de taux d'intérêt en 2024. Regardez.
Ouais. Une belle grosse brosse, pas de mal de tête.
Ouais, moi aussi, je rêve du paradis. puis de mon île dans les Caraïbes.
Oui, c'est ça. Ouais, exact. Bon, merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Là, comme vous le comprenez, il n'y a pas de participer Patreon parce que c'est un podcast enregistré à une heure inhabituelle. Puis c'était ça où il n'y en avait pas. Fait que,
exact.
On pensait que c'était quand même mieux d'en faire, mais de toute façon, les Patreons, ben, ils l'ont plus rapidement que les autres, fait que ça reste avantageux pour vous autres.
Quand même, la journée qu'on parle du budget, le fait que ce soit plus rapide que les autres, je pense que les gens qui vont l'écouter dans 4 semaines de manière gratuite vont dire « Ouais, je commencerais peut-être à être temps que je paye pour le podcast du Trio Économique. <C'est ça, j'entends. rire>
Ouais. J'ai été un peu pas généreux aujourd'hui.
Yes. Ciao tout le monde.
Salut.
Passez au deuxième guichet, s'il vous plaît.